Donc, merci beaucoup à vous de nous donner l'occasion de présenter ce livre. Alors, ce livre est issu d'un travail collectif à partir de 6 thèses, donc les 6 thèses des 6 auteurs, qui correspondent à, enfin, qui s'inscrivent dans 3 disciplines différentes et qui, en tout, ont permis de confronter 9 terrains dans 4 pays. Alors, pour chacun d'entre nous, dans nos thèses, il était question de gentrification. Et la gentrification était par ailleurs une question plus ou moins centrale hein, dans ces thèses. Des thèses que nous avons à peu près soutenues en même temps. Et nous avons décidé de nous réunir plutôt à la fin et après nos thèses pour confronter nos résultats sur cette question de la gentrification. Alors, en sachant d'emblée qu'on avait quand même un certain nombre de points communs, un point de vue critique sur l'emploi du terme, sachant qu'on trouvait tous, qu'on sentait tous que ce terme était utilisé parfois à outrance et que ça tenait souvent plus du positionnement politique que du positionnement scientifique et qu'il y avait une complexité de situation qui pouvait être masquée. Le deuxième point commun que nous avions, c'était une certaine distance également par rapport au débat théorique animé dans la recherche anglophone, notamment entre tenant des explications par la demande et par l'offre. Et puis le troisième point commun, c'était une certaine insatisfaction face au modèle théorique traditionnel, notamment le stage model, qui donne une vision séquentielle et linéaire du phénomène. Alors, d'où le perspective européenne hein, dans le titre de cette présentation, à la fois en raison des terrains, mais aussi de la prise de distance par rapport au débat théorique anglo-saxon. À l'inverse, on s'est inscrit volontiers dans une tradition disciplinaire, en sociologie, en géographie notamment, qui affirmait la non-linéarité du processus, en écho à des réflexions menées, entre autres, par Jean-Pierre Lévy et Jean-Yves Autier autour de l'idée donc qu'il n'existe pas de linéarité hein, du processus, mais que la gentrification se présenterait davantage comme un côtoiement de populations et de mobilités différenciées. Voilà, vous avez la citation entière sur la diapo sur laquelle on s'est tous basés. Par ailleurs, dans nos travaux de thèse, certains d'entre nous parlions de résistance ou de frein à la gentrification. D'autres parlaient, comme Vic, de dégentrification. Nous avions tous perçu des formes multiples, des temporalités complexes dans le processus, des rythmes différenciés. Et puis, autre point commun, nous avions tous porté une attention très particulière aux acteurs, dans leur diversité, donc aux différents acteurs, hein, les habitants, les pouvoirs publics, les acteurs économiques, mais aussi une attention très particulière à la diversité interne de ces catégories, jamais perçues comme homogènes hein, ou comme figées, y compris dans leurs pratiques, et donc aussi avec une attention portée sur l'ambivalence de ces pratiques. Et sans surprise, nos premiers échanges ont très vite montré à quel point les espaces et les processus que nous avions appelés gentrification dans nos thèses étaient très variés. Alors, je vais laisser la parole aussi à mes collègues pour explorer et présenter ici pourquoi, malgré tout, nous avons conservé ce mot gentrification en y mettant un S et avec quelle signification derrière.
Donc, premier temps de cette communication, c'est essayer de défendre un petit peu donc la ligne générale de l'ouvrage et comment, en partant d'une très grande diversité de terrains et de phénomènes de transformation sociale et urbaine, on en est venu quand même au choix de conserver la notion de gentrification et donc avec quel contenu. Donc, Marie l'a dit rapidement, nos thèses se sont... On travaillait 9 terrains dans des villes aux trajectoires très différentes. Une jolie petite carte, donc quand même toutes situées en Europe de l'Ouest. des quartiers situés dans des grandes métropoles prospères, des métropoles de second rang, mais aussi des villes en déclin, des quartiers plus ou moins grands qui occupaient des positions variées dans leurs agglomérations, comme le quartier péricentral de Goutte d'Or, Château-Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris, le quartier d'Alcantara à Lisbonne, ou encore des quartiers qui étaient vraiment des portions des centres, de centres-villes historiques, comme l'arrondissement de Ciutat Vella à Barcelone, comme les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, ou Beria-Saint-Bruno à Grenoble. Et puis encore un autre ensemble de terrains, même si c'est difficile de faire des catégories, puisque voilà, tous les contextes sont un peu uniques, mais des quartiers, des villes post-industrielles comme Sheffield dans le nord de l'Angleterre ou Roubaix dans le nord de la France, ou encore le quartier du Bas-Montreuil dans la petite couronne parisienne. Donc tout ça juste pour dire que déjà d'entrée de jeu, on partait sur un certain... Enfin, on n'a pas le temps là d'entrer dans la diversité de ces terrains, bien sûr, mais on a travaillé déjà sur des contextes économiques, sociaux, politiques, urbains très différents, sur des périodes aussi un peu différentes, même si quand même on a tous couvert les décennies 1980 à 2000, parfois en remontant un peu plus dans le temps. Alors, déjà, juste en comparant ce qu'on avait observé et en restant dans un registre descriptif, ça nous a conduit à l'emploi du terme gentrification au pluriel. Il y avait une diversité temporelle, sociale et géographique des phénomènes qu'on observait. Diversité, donc plus précisément des rythmes de la transformation urbaine et sociale qu'on avait appelé gentrification, diversité des acteurs, diversité des formes urbaines prises par ce processus. Je peux donner quelques exemples assez rapidement. D'abord, sur nos terrains, les profils des acteurs du changement urbain identifiés étaient donc assez divers et en tout cas souvent plus divers que dans les théories effectivement, et les travaux anglo-saxons qu'on avait lus les uns et les autres. Je vais être à mon tour un peu caricatural, mais pas seulement des classes moyennes ou des grands groupes immobiliers, mais aussi des habitants ouvriers à la retraite, multipropriétaires, d'anciens propriétaires d'usines qui se reconvertissaient dans l'immobilier à une petite échelle, des petits commerçants locaux faisant évoluer leur commerce, etc. Et puis, on voyait bien que tous ces acteurs avaient toutes sortes de motifs et de logiques, pas seulement d'ordre financier. De même, sur nos terrains, les pouvoirs publics avaient clairement des discours et des politiques assez variés et en plus évoluant fortement au fil du temps, allant de la recherche explicite d'une transformation urbaine et sociale, montée en gamme urbaine et sociale, on va dire, à d'autres politiques plus clairement orientées vers un frein à certaines formes de changement, en tout cas. Et en plus, ces politiques explicites se doublaient de pratiques qui pouvaient être inverse aux objectifs souhaités. Donc une certaine complexité sur ce front-là aussi. Et puis, également, on voyait bien que la progression géographique du changement urbain sur nos terrains et du changement social était aussi assez différente selon les cas, avec des configurations diverses, des barrières physiques, morphologiques, mais aussi juridiques ou sociales. Et en tout cas, le schéma de la progression implacable du phénomène, hein, dont Thomas Maloutas a parlé aussi, qui déboucherait sur une éviction systématique et complète des ménages les plus pauvres, est rarement vérifié sur nos terrains. D'où une analyse attentive aussi à ceux qui continuent à résider dans les quartiers étudiés, à ceux qui n'y résident plus, mais qui y habitent quand même en y étant quasiment quotidiennement présents, et à toutes sortes de pratiques et d'acteurs qui continuent à façonner le quartier. Et enfin, la gentrification n'est jamais le seul processus à l'œuvre dans les quartiers qu'on a étudiés, en tout cas sur la durée où on les a considérés. Donc, très clairement, on était assez d'accord avec Thomas Maloutas, et donc c'est ce qu'on inscrit dans ce qu'on écrit dans notre introduction, hein, qu'effectivement, il y a d'importantes variations contextuel de ce qu'on peut appeler gentrification. Et on a voulu travailler vraiment un peu plus finement sur cette idée-là, C'est-à-dire que, ok, on peut dire qu'il y a des variations contextuelles, du coup on peut parler de gentrification au pluriel, mais pour justement ne pas en venir juste à juxtaposer une série de cas en disant, bon, est-ce qu'on les rassemble ou pas sous la bannière de la gentrification pour produire de la connaissance, eh bien on s'est dit qu'il fallait justement essayer de décortiquer ces variations contextuelles pour voir qu'est-ce qui produisait ces variations, qu'est-ce qui fait que ce changement urbain est plus ou moins lent ou plus ou moins rapide, qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête ou qu'il reprend, qu'il a lieu dans telle rue mais pas dans telle autre, qu'il implique des acteurs économiques ou pas, etc. etc. Donc l'idée de confronter les cas d'études de manière vraiment approfondie pour aller chercher justement des explications. Et donc peut-être, c'était le point, la première citation qui a été rappelée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on se disait quand même multiplier les cas d'études n'est pas forcément vain si on ne reste pas dans une perspective descriptive, mais qu'on cherche à identifier des causalités qui peuvent expliquer justement ces variations. Et à ce moment-là, à la limite, peu importe que ça s'appelle gentrification ou pas, ça nous aide juste à comparer ces terrains et du coup à voir en quoi des configurations urbaines et sociales produisent des changements différents. Voilà, donc d'où cette idée que gentrification au pluriel, ça ne veut pas dire des déclinaisons d'un phénomène qui existerait quelque part à l'état pur, quelque part étant peut-être dans la littérature anglo-saxonne dont on parle depuis tout à l'heure, mais des variations contextuelles, trois petits points, avec peut-être quand même des dénominateurs communs qui expliquent qu'on conserve ce terme de gentrification et qui en tout cas le rendent utile. Donc, quels seraient ces dénominateurs communs? C'est ce qu'Ovig va essayer de vous présenter. Voilà, c'est là où on s'avance un peu plus.
Voilà, effectivement, l'idée, c'était d'aller à la recherche, alors ce qu'on a appelé pendant longtemps et ce qu'on a appelé dans l'ouvrage l'ADN de la gentrification, c'est-à-dire ce qui constituerait en quelque sorte ces éléments structurants qui feraient la particularité de la gentrification par rapport à d'autres processus de changement social, ségrégation, montée en gamme, raffinage, etc. Et donc parmi ces dénominateurs communs, donc on est tombé d'accord par discussion et par confrontation de nos travaux que au moins l'un de ces dénominateurs communs est que la gentrification est avant tout une rencontre contextualisée, hein, et on insiste bien là-dessus, sur l'idée de contextualisation, c'est-à-dire une rencontre liée à des contextes particuliers, des contextes locaux particuliers, mais ce contexte local particulier, c'est à la fois un contexte, le contexte de la ville, hein, ou de la métropole dans lequel on observerait ce processus de gentrification, mais aussi le contexte du quartier, ou des quartiers concernés, voire des rues, voire des bâtiments. Et Mathieu Giroux et Marie ont tous deux travaillé à l'échelle du bâti, à l'échelle des appartements même, pour observer finement ces variations qu'il pouvait y avoir d'un appartement à l'autre ou d'un bâtiment à l'autre. Et ça fait écho à des travaux de Thomas Maloutas aussi sur la ségrégation verticale. Et puis, bien entendu, des contextes liés aussi à la diversité des groupes sociaux et des individus en présence dans les quartiers d'études. Au-delà de ces rencontres contextualisées, il était important d'avoir en tête que, bien entendu, on était face à des trajectoires spécifiques, mais ces trajectoires spécifiques elles-mêmes pouvaient s'inscrire dans des grandes transformations sociales liées aux villes européennes que l'on observait. Ce que l'on a appelé ces grandes dynamiques structurantes propres au post-fordisme, alors pour aller très vite, hein, et bien entendu, on pourra en discuter longuement, mais pour aller très vite, ces grandes dynamiques structurantes qui sont liées donc à la période qu'on a surtout étudiée, c'est-à-dire à partir des années 70-80, c'est le passage d'une économie industrielle à une économie de services, la montée en puissance des classes moyennes dans les pays qu'on avait observés, et puis bien entendu le renouvellement des politiques urbaines qui accompagnaient justement ces différents processus, la montée en puissance du modèle de la ville compacte, de la ville dense, le renouvellement des politiques patrimoniales également, hein, qui est assez concomitante en France comme en Espagne, comme en Italie d'ailleurs. Voilà, donc des rencontres contextualisées qui ont bien lieu comme, malgré tout dans des contextes nationaux voire internationaux qui sont structurants pour un certain nombre de processus et qui aboutissent à des rapports sociaux inégalitaires d'appropriation de l'espace exprimés par la gentrification. Au final, donc, on en vient à définir la gentrification comme la rencontre, alors en un lieu donné à un moment précis, puisqu'on n'oublie pas ces effets de contexte, de dynamiques urbaines, économiques, sociales et politiques, hein, en essayant de brasser l'ensemble justement des processus à l'œuvre, qui, dans certains cas, sont d'envergure nationale ou internationale, mais qui, dans d'autres, sont parfaitement liés à des conjonctures locales ou des conjonctures très spécifiques. Dans le cas de Roubaix, par exemple, Max Rousseau montre que la gentrification, ou en tout cas ces processus de gentrification, au départ, ils ne sont pas du tout portés par ce modèle de l'urbanisme néolibéral et de ces grands capitaux internationaux qui fondraient sur des quartiers en déshérence et qui fondraient sur la ville, mais au contraire portés par une bourgeoisie locale qui se pose la question de la reconversion de son capital au moment où la ville de Roubaix est en crise. Donc on n'est pas du tout dans ce modèle de l'urbanisme néolibéral. Donc dans certains cas, effectivement, des effets et des acteurs nationaux et internationaux, mais dans d'autres, au contraire, des acteurs locaux et parfaitement ancrés dans le territoire. Donc un rapport social inégalitaire d'appropriation de l'espace serait ce qui caractériserait sa gentrification. Et on insiste là-dessus. La gentrification n'est pas le seul rapport social inégalitaire d'appropriation de l'espace, mais il est bien un rapport particulier d'appropriation de l'espace qui se caractériserait, alors qui se caractériserait sans doute par au moins 4 points, hein, et ce qui ferait peut-être donc le dénominateur commun de la gentrification. Alors d'abord le fait que ce rapport social inégalitaire met en confrontation des acteurs variés, hein, acteurs publics, acteurs privés, individus, ménages. Mais comme l'a dit Marie, au sein même de ces groupes d'acteurs, il y a aussi des différenciations très fortes, et Anaïs vous proposera un exemple dans un instant. Un rapport social qui se caractérise également par la diversité des ressources mobilisées par ces différents espaces, et par ressources, nous n'entendons pas seulement les ressources économiques, mais également des ressources de l'ordre des représentations, comment les acteurs agissent également sur les images d'un quartier, les ressources sociales également, comment des réseaux d'acteurs peuvent être mobilisés par d'autres acteurs à un moment donné pour produire justement le changement urbain, le tout dans un modèle d'urbanité qui légitime les quartiers anciens centraux, européen. Et là, il y a eu un débat à Leeds, Anaïs pourra peut-être en parler, sur ce fameux modèle d'urbanité, c'est-à-dire l'idée qu'à partir des années 80, ce qui est valorisé dans les politiques publiques et notamment dans les politiques patrimoniales, c'est la ville compacte, c'est la ville patrimoniale, c'est la ville de la proximité, la ville de la proximité, oui, et de la compacité. Sans oublier, bien entendu, et on insistera là-dessus, sur l'importance des logiques de distinction sociale qui caractérisent ces populations de gentrifieurs que l'on retrouve sur nos terrains. Voilà. Alors l'idée dans cette deuxième partie c'est de la communication, c'est justement d'essayer d'illustrer notre positionnement et d'illustrer ces différentes situations et notre attachement aux effets de contexte et à l'explication plus qu'à la description d'un modèle dégradé de la gentrification. On le fera en 3 points rapidement. Mais je vous laisse la parole. Alors Marie va vous parler du bâti. Anaïs évoquera la diversité des acteurs et des gentrifieurs. Et pour ma part, je conclurai sur la diversité des processus à l'œuvre dans des quartiers de gentrification.
Alors, je vais commencer avec les trajectoires de bâti. C'est en partie le résumé d'un chapitre et d'analyses qui ont été menées en grande partie avec Mathieu Giroux. Alors, le point de départ de notre analyse, ça a été un constat empirique, celui qu'en fait, dans nos 3 terrains, à Paris, à Grenoble et à Lisbonne, tous les segments du parc de logement n'attiraient pas de la même façon et ne se transformaient pas de la même façon. Certains même se transformaient pas du tout. Et puis, dans d'autres cas, nous avions même pu constater des retours en arrière, des appartements transformés qui avaient été occupés un temps par des membres de couche moyenne et qui pouvaient à nouveau être réoccupés par des habitants de catégories plus populaires. Alors, l'hétérogénéité de l'offre au sein du parc ancien est décrite depuis longtemps comme un facteur de mixité sociale, mais aussi de mobilité, notamment si on prend en compte, bien sûr, la question du logement social, mais aussi la question de la taille des logements. J'en ai une toute petite illustration, mais la présence de petits logements dans un quartier peut permettre la présence d'étudiants avec une forte mobilité résidentielle. Mais ce que nous avons essayé de mettre en avant, c'est le rôle structurant du cadre bâti et notamment de ce qu'on a appelé son potentiel de gentrification. Donc nous avons travaillé sur l'idée d'un potentiel. Alors l'idée défendue, c'est de dire que tous les bâtis anciens ne sont pas gentrifiables en même temps parce qu'ils n'ont pas tous le même potentiel. Et plusieurs facteurs jouent sur ces temporalités différenciées. Alors le premier facteur que nous avons analysé est lié à la structure physique du bâtiment. Tout simplement, en fait, son architecture, sa plasticité, les matériaux, ce qui fait qu'il peut être plus ou moins transformable et appropriable, mais aussi le regard porté sur ce bâti. Alors, quel type de bâti peut être considéré à potentiel et donc appropriable? Par qui et à quel moment? Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. Alors, plusieurs conditions sont nécessaires. Bien sûr, la possibilité de transformation sur le plan architectural. Hein, est-ce qu'on peut agrandir? Est-ce qu'on peut abattre des cloisons? Est-ce qu'on peut ouvrir? Est-ce qu'on peut le faire aussi? Est-ce que c'est possible sur le plan juridique, en fonction des règles d'urbanisme, bien sûr, mais aussi à l'échelle des immeubles, en fonction des règles de copropriété. Alors, le regard porté aussi sur le bâti, je reviens un peu là-dessus. Alors, à quel moment, par exemple, dans le cas de Paris, est-ce qu'à quel moment il devient opportun sur le plan financier et valorisant même sur le plan social de réinvestir un rez-de-chaussée ou par exemple un ancien local commercial? Donc là, on est vraiment ici à la rencontre des trois trajectoires hein, qui ont été décrites dans l'introduction. Et si elles ne sont pas toutes présentes dans un moment particulier, il ne peut pas y avoir d'appropriation du bâti. Alors le deuxième point que nous avons développé est lié à la... Le deuxième facteur pour décrire ce potentiel est lié à la situation du logement dans le bâtiment. Alors, on a tous les deux pu étudier des immeubles et donc observer des situations très différentes, par exemple, entre logement au rez-de-chaussée, logement en hauteur. Situation du logement dans le bâtiment, je vais la décrire après. Situation aussi par rapport à la rue, à quel niveau de la rue, situation également dans le quartier, et puis bien sûr aussi liée en relation avec l'ensemble de l'agglomération. Avec des écarts qui peuvent être très forts de transformation, encore une fois, entre des logements rez-de-chaussée, des logements sur cour, dans telle ou telle partie du quartier ou de la rue étudiée. Et troisième facteur identifié, c'est qui joue un rôle très important, c'est le rôle des structures de propriété qui font que des logements qui peuvent avoir le même potentiel architectural, la même situation dans une rue, dans un quartier, ne se transforment pas du tout de la même façon et parfois de manière extrêmement différente. Alors pour illustrer ça, je vais revenir sur deux exemples. Donc sur deux trajectoires de bâtiments, un que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, donc soutenu en 2011, et puis un que Mathieu Giroux a beaucoup développé et qui est un exemple que j'aime beaucoup. Alors Château Rouge, donc dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié plusieurs immeubles, donc notamment un immeuble dans une des rues où le processus avançait le plus vite à cette époque. Alors pour vous résumer ce schéma. Vous voyez deux immeubles à chaque fois, mais parce qu'il y a l'immeuble sur rue, c'est un immeuble haussmannien classique, et puis derrière l'immeuble sur cour, donc il y a une toute petite cour. Hein. Donc l'immeuble sur rue avec deux commerces en rez-de-chaussée, et puis l'immeuble sur cour qui a des petits logements au rez-de-chaussée. Alors à chaque fois, donc il y a six étages. Voilà, donc la rue, c'est une des rues les plus actuellement commerçantes de ce quartier, avec actuellement des commerces qui drainent des populations, une clientèle qui dépasse très très largement celle des habitants du quartier et qui sont spécialisées dans une offre de produits alimentaire et vestimentaire africain. Alors, j'ai pu interroger, dans le cadre de ma thèse, les habitants qui y étaient durant ces années-là et identifier des mouvements. Mais la chance que j'ai eue aussi, c'est que les habitants qui y étaient à ce moment-là m'ont donné des informations sur les précédents et grâce à un certain nombre de documents, j'ai pu parfois remonter assez loin dans l'histoire de ces logements. Et donc, arriver à ce schéma, alors le premier immeuble, et avec ces deux bâtiments, on est au 1er janvier 2003, le dernier au 1er janvier 2011, donc avec une... Vous voyez des évolutions, des changements de couleurs. Alors, je vous décrypte la légende. Alors, en rouge, j'espère que le rouge se détache assez bien, ce sont des occupants très, très précaires, vraiment, socialement. Alors, par exemple, typiquement, pendant mes années de thèse, c'était des migrants, donc soit des familles africaines, en l'occurrence, soit à une époque aussi des travailleurs Sri Lankais qui se partageaient en fait un appartement à 6 ou 7. Voilà. En orange, alors qui est la couleur la plus présente au début, ce sont des occupants de longue date, alors souvent âgés, parfois des gens qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, très souvent propriétaires, hein, des propriétaires occupants, qui appartenaient plutôt à des couches moyennes plutôt basses et occupant depuis très longtemps de ces logements. En marron clair, c'était des occupants beaucoup plus récents, parfois depuis 4, 5, 10 ans, mais qui appartenaient aux mêmes catégories sociales que les précédents. Le bleu, vous voyez, donc là on a une rupture, hein, là ce sont vraiment les nouveaux habitants, dont le profil change, alors que ce soit le profil économique, social, culturel, démographique aussi, donc gens beaucoup plus jeunes qui arrivent. Alors l'étoile jaune, c'est lorsqu'il y a une transformation vraiment très très importante du logement. Là, j'ai pas mis de photos, mais c'est vraiment des petits appartements plutôt étriqués qui sont complètement ouverts, complètement refaits. Voilà, c'est la grosse transformation. Alors deux éléments qui sont intéressants. Le gris clair, ce sont des situations de vacances. Et puis, alors, le noir, qu'on voit réapparaître à la fin, sont des situations de squat. Alors, vous voyez effectivement la progression du bleu au fil des années, mais avec une différence assez importante entre l'immeuble de rue, celui qui donne sur la rue, et celui qui donne sur la cour. Alors, celui qui donne sur la rue, il a plus de lumière. Et les appartements du haut, qui sont ceux qui, en fait, se sont le plus vite transformés, ont une vue sur le Sacré-Cœur. Donc, plus de lumière et une vue qui est valorisable et très valorisée, notamment par les agents immobiliers. Les appartements sur cour ont beaucoup moins de lumière, sont vraiment, pour être, en gros, même au quatrième étage, au troisième étage, en 14 heures, il faut allumer l'électricité, hein. Il fait vraiment très très sombre, et puis en bas, c'est vraiment, il faut allumer tout le temps la lumière, hein. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, au fil des années, c'est quand même les étages bas, de l'immeuble sur cour qui se sont le moins transformés socialement et au niveau architectural. Et puis le côté sur rue, ça c'est le contexte aussi spécifique de ce quartier. Le premier étage ne se transforme pas. Le premier étage, c'est celui qui donne directement au-dessus des commerces, au-dessus de la rue très commerçante, qui est très animée, très bruyante. Et donc là, on a un contexte très très local de cette rue qui fait que ça se transforme moins vite. Quelque chose qui est intéressant, c'est que aussi on a eu en fait une situation de squat qui est réapparue dans l'immeuble sur rue à un moment où la majorité des habitants avaient un profil de gentrifieur, mais voilà quand même un retour en arrière par rapport à l'histoire de cet immeuble important et qui a eu encore aussi des conséquences en termes de mobilité résidentielle sur certains habitants. Voilà, alors le deuxième exemple, c'est un... Alors là, c'est un, un ensemble de 4 immeubles qui a été étudié par Mathieu Giroux pendant sa thèse et qui permet plutôt de mettre en évidence le rôle des structures des différences de structures de propriété. Là, on a 4 immeubles qui sont identiques, c'est exactement la même architecture, 19e siècle, mais avec un processus très différent de réhabilitation. En fait, certains sont... les appartements sont très gentrifiés et d'autres pas du tout. Et cette différence, à l'époque où il a fait sa thèse, elle était très visible sur les façades. C'est-à-dire qu'en fait, les deux pas transformés étaient très, très décrépits et puis les deux autres étaient très pimpants. Et il a expliqué ça avec une étude des structures de propriété. Alors, historiquement, on avait dans cette rue une logique verticale de propriété avec des familles qui possédaient un immeuble entier. Et puis des appartements qui ont été mis en location au fil du temps et à des prix assez faibles, qui ont permis à des occupants de se maintenir très longtemps. Et puis, au cours des années 2000, il y a 2 de ces immeubles qui ont été vendus à la découpe, appartements par appartement, et ce qui a donné l'occasion à de nouveaux arrivants de s'y implanter, de faire des très grands travaux, avec là aussi beaucoup de démolitions, d'ouvertures, mais aussi à certains anciens occupants de racheter leur logement, ce qui fait que, en fait, à l'intérieur même des immeubles les plus transformés, se sont maintenues des populations plus anciennes. Et que par ailleurs, un des immeubles, donc c'est l'immeuble possédé par la famille Y, tout à droite, celui-là est resté dans une même propriété. Enfin, c'est la famille est restée propriétaire, l'a pas vendu, il était au moment de ses recherches dans un contexte totalement différent de celui de l'immeuble d'à côté, qui est exactement la même architecture. Voilà, donc 2 exemples développés rapidement, mais qui permettent d'illustrer donc ces 3 points qu'on avait souhaité mettre en évidence sur le rôle du bâti.
Alors, de mon côté, je vais essayer de vous montrer aussi comment on a travaillé, puisque finalement, on a dit tout à l'heure, on va vous donner notre définition de la gentrification, mais c'est presque plus une méthodologie qu'une définition. Donc, cette méthodologie, si on l'applique au profil des gentrifieurs et de ce que j'ai appelé les manières de gentrifier, c'est pas très joli, mais bon, le rapport au logement, les logiques d'installation, de choix résidentiel qui motivent l'installation dans des quartiers en voie de gentrification. Alors, lorsqu'on s'intéresse au profil des gentrifieurs, assez rapidement, on est confronté à ce que la littérature anglo-saxonne a appelé le « stage model », qui est issu de différents travaux de la toute fin des années 70 de Clay, Gale et Pattison, qui sont pas si faciles à trouver et qui en fait ont été repris de manière un peu simplificatrice au fil du temps et se sont solidifiés sous la forme d'une espèce de modèle par étape qui pose un certain nombre de problèmes puisque ce modèle décrit des vagues successives de nouveaux habitants qui sont définis un petit peu hors de tout contexte par un certain nombre d'indicateurs, configuration familiale, niveau de revenu, type de valeur, rapport au risque et type de choix résidentiel. Donc ces vagues de nouveaux habitants, vous avez certainement vu passer ce vocabulaire puisque c'est dans ce type de modèle qu'on parle des pionniers, qui sont généralement décrits comme les artistes prêts à prendre des risques, ou des habitants au style de vie non conventionnel qui apprécient la diversité sociale et rénovent même les logements. Bon, ça, c'est un peu l'archétype qui s'est le plus propagé. Mais on a ensuite des pionniers deuxième vague qui sont un peu plus installés, un peu moins artistes, qui plus souvent achètent, etc. Et puis ce que certains stage models, selon les traductions, appellent les envahisseurs, classe moyenne et supérieure qui s'installent dans des logements déjà rénovés, voire des logements neufs, et enfin des consolidateurs qui seraient plus âgés, plus riches, plus conservateurs, travaillant dans les affaires et investissant dans une logique spéculative. Alors, le problème de cette description par vague de nouveaux habitants, c'est donc qu'ils sont définis hors de tout contexte et que, bien sûr, ils proposent une vision assez simplificatrice. L'autre problème, c'est que ces modèles sont pas mal inspirés par la logique d'invasion-succession décrite par les sociologues de l'école de Chicago, dans laquelle ce sont les gentrifieurs qui, par leur profil sociologique, modifient progressivement la nature du quartier et le rendent attractif pour d'autres groupes sociaux. Et donc, ça vient nourrir cette idée d'un processus linéaire qui s'alimente de lui-même, comme mu par une force autonome. Or, donc, en travaillant sur les quartiers des pentes de la Croix-Rousse, dans le centre de Lyon, et du Bas-Montreuil, en petite couronne parisienne, j'ai pu observer donc une grande diversité des habitants gentrifieurs, une grande diversité aussi de leur motivation à venir s'installer dans ces quartiers, dans les deux quartiers, mais aussi selon les moments et à un même moment. Et il m'est apparu que ces profils et ces manières de gentrifier dépendaient au moins autant du lieu et du contexte spatial, de la localisation, du type de bâti, des politiques urbaines qui étaient en vigueur à ce moment-là. Donc, dépendait autant du lieu et du moment aussi, hein, des configurations, des contextes sociaux, économiques et peut-être urbains un peu plus macro dans lesquels ils étaient pris, que du degré de maturité, hein, du processus, pour reprendre le vocabulaire du stage model. En plus, étant donné la durée du processus de changement urbain, il est évident que ces différents types de gentrifieurs sont plus souvent amenés à cohabiter au moins un certain temps qu'à s'évincer ou à se remplacer de manière un peu mécanique. Alors, pour comprendre du coup le profil des gentrifieurs et les logiques de leur choix résidentiel, il fallait donc regarder de près les effets des contextes locaux et des structures sociales, économiques et urbaines dans lesquelles ils étaient pris. Ça permet en même temps de passer d'une logique descriptive à une logique plus explicative. Donc, c'est ce que j'ai fait dans un chapitre du livre à partir de ces deux cas du Bas-Montreuil et des pentes de la Croix-Rousse, en regardant leur localisation, donc deux terrains qui diffèrent assez fortement, juste quelques illustrations, mais qui diffèrent assez largement, à la fois par leur localisation relative, l'un est dans l'hypercentre de Lyon, l'autre dans la petite couronne parisienne, par leur morphologie urbaine, pas du tout la même densité urbaine, pas du tout le même type de bâti, j'y reviendrai, par leur histoire sociale et politique et par le rythme de la transformation sociale et urbaine qui était en cours. Alors, je vais m'appuyer sur des données qui sont les données issues des recensements de la population de 90, 99 et 2006, et pour 90 et 99 en particulier, les données sur ce qu'on appelle les migrants externes, c'est-à-dire les habitants qui sont venus s'installer pendant la période intersensitaire, et également sur des données notariales qui permettaient d'avoir le profil des acquéreurs de logements et les caractéristiques des logements acquis pour deux années témoins, 1998 et 2007. Et puis je m'appuie aussi sur les entretiens que j'ai pu mener. Je vais juste donner trois ensembles de résultats assez rapidement, en faisant varier justement les échelles de ce qu'on peut appeler contexte ou effets de contexte qui sont en fait à la fois des effets de contexte très locaux et des effets de structure macro-sociale. Et je vais aller du plus macro au plus micro. D'abord, pour aller donc assez vite, hein, on peut voir que le profil de ces gentrifieurs dépend fortement, tout simplement, des évolutions de la structure sociale sur l'ensemble de la période que j'ai analysée. Évolution de la structure sociale nationale et régionale, ou disons à l'échelle du bassin d'emploi. Donc, je vais juste prendre deux exemples. La fameuse place des artistes, sont-ils des pionniers du phénomène ? J'ai pu voir dans mes deux quartiers, alors que la transformation sociale, donc le remplacement des catégories populaires par les classes moyennes et supérieures est déjà en cours à partir du recensement de 75 dans les deux quartiers, que ce ne sont pas les artistes, ou en tout cas la catégorie des professions d'information des arts et des spectacles, qui sont les pionniers au sens chronologique dans la transformation de ces deux quartiers. Dans les deux quartiers, en fait, ils semblent arriver de manière plus nombreuse dans la décennie 90 que dans la décennie 80. Plus précisément, par exemple, dans le cas de Montreuil, leurs effectifs parmi les nouveaux arrivants, parmi les migrants externes, leurs effectifs triplent entre la période des années 80 et la période des années 90. Et dans les ponts de la Croix-Rousse, leur effectif double. Plus intéressant également, dans le Bas-Montreuil, c'est la seule catégorie de nouveaux habitants appartenant aux classes moyennes et supérieures dont l'effectif augmente. Toutes les autres catégories voient leurs effectifs stagner ou diminuer, notamment les cadres du public et les professeurs et professions scientifiques. Bon, donc on aurait finalement des artistes qui arriveraient après les cadres du public, des ingénieurs, mais aussi les professions de la santé ou du social. Alors, une explication que j'ai trouvée, c'est tout simplement que la décennie 90 voit l'emploi dans les professions culturelles augmenter très rapidement, de plus 19% dans l'emploi total, dans l'emploi à l'échelle nationale, alors que l'emploi total n'augmente que de 4%. Et si on regarde les données du recensement, c'est la catégorie socio-professionnelle détaillée qui voit ses effectifs augmenter le plus dans la décennie 90, hein, en proportion. Alors que c'était les cadres du public et les ingénieurs dans les deux décennies précédentes. Cette augmentation de leur nombre est encore plus rapide en région parisienne, ce qui peut expliquer leur afflux très fort dans le Bas-Montreuil. Deuxième petit exemple, donc effet des évolutions de la structure sociale sur les logiques immobilières ou les logiques du choix résidentiel. Effectivement, j'ai pu constater dans les entretiens la montée en puissance d'une logique d'investissement, pas forcément investissement au sens spéculation, mais en tout cas d'un désir d'acquisition du logement, ce terme d'investir quand même, investir son argent dans la pierre. Mais là aussi, le stage model prend ça un petit peu comme endogène, parce qu'il y a gentrification, alors des nouveaux habitants arrivent en se disant « je vais acheter ». Là, en l'occurrence, dans les entretiens, il m'est apparu que c'était quand même très lié à beaucoup d'autres facteurs, beaucoup plus structurels, sur lesquels j'ai pas le temps de revenir, mais une forme de précarisation face à l'emploi, des choses très connues, hein, mais qui font que les générations nées dans les années 60, 70 ont beaucoup plus ressentent beaucoup plus le besoin ou la pression d'acheter un logement que les baby boomers et aussi pas les mêmes projets résidentiels que leurs aînés, qui étaient dans un rapport un peu plus distendu à l'emploi et un peu plus étroit à la politique dans ces fractions-là des classes moyennes. Alors, je ne développe pas davantage, mais je donne juste un deuxième ensemble d'analyses. Si on descend à une échelle plus fine, à l'échelle de l'agglomération et de la commune, on peut voir aussi des effets des fluctuations du marché immobilier sur ce profil des gentrifieurs et sur les logiques de leur choix résidentiel. Là, ce qui est intéressant, c'est de confronter deux quartiers qui sont situés dans deux grandes agglomérations assez dynamiques, qui ont grosso modo à peu près, avec quand même une grosse différence, mais la même fluctuation du marché immobilier avec une décennie 90 relativement atone. Alors il y a un pic immobilier, un boom immobilier au tout début des années 90 en région parisienne qui est beaucoup plus faible à Lyon. Mais voilà, et puis un emballement au contraire des prix, une élévation très forte des prix dans les années 2000. Mais on observe des effets très différenciés de ces fluctuations immobilières dans les deux quartiers. Et notamment, on peut voir un effet, les dynamiques immobilières sont plus ou moins soit accentuées, soit contrariées par des politiques locales. Et donc là, évidemment, la couleur politique de la municipalité de Lyon, alors, diverses équipes qui se succèdent, mais qui, grosso modo, vont toutes dans le sens de remettre les pentes de la Croix-Rousse sur le marché immobilier, favoriser la reprise de l'activité immobilière dans ce quartier qui était un peu sorti du marché, et soutenir la hausse des prix, versus un quartier du Bas-Montreuil où la municipalité communiste est quand même plutôt dans l'idée de, en tout cas, se méfier des spéculateurs ou des investisseurs qui voudraient revendre, des professionnels de l'immobilier et continuer à construire du logement social de manière assez abondante. Donc grosso modo, en fait, on a des politiques assez contrastées qui vont faire que la gentrification va beaucoup plus vite dans les pentes de la Croix-Rousse que dans le Bas-Montreuil, alors même que l'équilibre entre classe populaire et classe moyenne et supérieure était exactement le même en 75. Hein, on a une transformation sociale beaucoup plus rapide dans les pentes. Le profil des acquéreurs et les logiques d'acquisition sont aussi différentes dans les deux quartiers du fait de ces politiques différentes qui vont produire des effets différents dans les années 2000 aussi avec, je rentre pas plus dans les détails, mais un effet vraiment de patrimonialisation très très fort dans les pentes, avec notamment toute une mise en valeur d'un bien immobilier particulier qui est l'appartement Canu, et puis des logiques donc de spéculation hein, de la part de propriétaires croix-roussiens. Voilà, on pourra revenir si vous voulez dans le détail, mais je vais descendre encore un dernier échelon dans l'échelle géographique et regarder enfin en quoi la diversité les différences dans le tissu urbain de ces deux quartiers et les différences en termes de localisation de ces deux quartiers produisent des effets. C'est presque ceux qui sont les plus faciles à cerner. Tout simplement, on a un quartier des Pentes qui est très central dans Lyon et qui est formé d'appartements, quasiment que des appartements, il n'y a pas de logement individuel, de maison avec jardin, et des appartements petits. Donc bien sûr, ça va attirer davantage de jeunes actifs, d'étudiants et de jeunes actifs diplômés sans enfants, et c'est un quartier qui est aussi un quartier de sortie nocturne, donc relativement calme en semaine et en journée, plus animé en soirée et le week-end. A contrario, dans le Bas-Montreuil, on est en banlieue, on a davantage de logements individuels, de jardins, de terrasses, etc. Et donc, on va avoir une gentrification beaucoup plus familiale. Enfin, un dernier élément de bâti qui impacte la manière aussi dont la gentrification se déroule et les formes qu'elle va prendre socialement et physiquement sur place, c'est le fait que dans le Bas-Montreuil, on ait pas mal de petits locaux d'activité qui soient facilement réappropriables par des professionnels qui en font leur lieu de travail en même temps que leur lieu de vie. Et donc, on va avoir des gentrifieurs qui vont être aussi présents en semaine dans ce quartier et qui vont participer à sa transformation en façonnant, en modelant aussi hein, des espaces qui étaient, voilà, pour revenir sur ce que Marie racontait juste avant, bah, plus facilement transformables que des appartements d'immeubles Canu dans les pentes de la Croix-Rousse. Voilà, c'est juste un passage en revue un petit peu rapide, mais je veux laisser le temps à Olivier de dire un peu.
Oui, alors pour poursuivre et pour conclure, c'est sur ces questions de diversité de trajectoire, d'immeubles et d'individus, il nous intéressait aussi de regarder ce qui de remettre en contexte justement et d'inscrire dans le contexte d'un quartier ces fameux processus de gentrification. Et en particulier, il nous importait de mettre en avant l'idée que la gentrification, certes, focalise les débats, les discours, les médias, mais au fond, dans la plupart des quartiers qu'on avait observés, ne constituait qu'un seul des processus qui pouvait être à l'œuvre dans ces différents quartiers. Et qu'au contraire, on avait plutôt une pluralité de trajectoires de quartier, trajectoires d'individus, qui étaient autant de trajectoires nous invitant justement à regarder les différentes formes de rapports de nomination ou les rapports de force qui se jouent dans ces quartiers anciens entre populations, usagers, qui eux-mêmes ont des trajectoires résidentielles différenciées. Au fond, il s'agit bien de dire que la gentrification, d'une part, n'épuise pas l'ensemble des rapports de force ou de domination qui se jouent en ville, donc pour répondre aussi à cette question de savoir si la gentrification étrangle en bas ou pas, et que d'autre part, la gentrification elle-même, en tant que processus, pouvait être freinée ou au contraire accélérée selon les autres processus à l'œuvre. Et donc c'est ce qu'on a essayé de discuter en particulier dans un des chapitres coécrits avec Mathieu Giroux, en confrontant deux exemples, l'exemple de Barcelone et l'exemple d'Alcantara à Lisbonne. Alors dans le cas de Barcelone, qui est plutôt là une approche par analyse statistique multivariée, dans laquelle je ne rentrerai pas dans le détail. Je ne rentrerai pas non plus dans le détail des résultats de cette analyse, parce que les données sont maintenant un peu périmées, à mon sens. Elles datent pour la plupart de 2005-2008. Donc, sans rentrer dans le détail, il s'agissait de montrer qu'au fond, la gentrification dans le quartier ancien de Barcelone, elle est concomitante avec un certain nombre d'autres processus, y compris des processus de trajectoire sociale descendant. C'est-à-dire des îlots ou des secteurs qui restent d'abord des secteurs marginalisés, voire qui continuent de se paupériser, parce que ce sont des îlots qui accueillent des populations d'origine étrangère, populations plutôt classe moyenne basse, voire catégorie populaire, et qui constituent en fait autant d'occasion de concurrence, de mise en concurrence pour un même parc de logements vis-à-vis de gentrifieurs potentiels. C'est-à-dire qu'il importe de comprendre que dans le centre de Barcelone, si tout ne se gentrifie pas, c'est aussi parce qu'on a affaire à un parc de logements qui est vétuste, donc relativement abordable, mais qui peut être à la fois recherché par des spéculateurs ou des gentrifieurs comme des populations d'origine migratoire et ayant peu de ressources économiques. Donc des trajectoires sociales descendantes, des situations plutôt de stabilité ou au contraire des îlots qui sont l'objet de mises en tourisme et qui contribuent également à leur tour à faire fuir en fait les classes moyennes ou en tout cas à retarder l'arrivée des gentrifieurs. Moi j'avais eu l'occasion, alors plutôt de manière informelle, de discuter avec des gens qui disaient mais moi je veux plus habiter plutôt de catégorie moyenne ou supérieure et qui disaient mais moi je pars de Ciutat Vella parce qu'il y a trop de touristes, etc. Enfin, et donc là on est plus dans une confrontation non pas entre gentrification et entre gentrifieurs et classe populaire, mais entre gentrifieurs potentiels, classe moyenne in situ et puis touristes. Voilà. Et à une échelle plus fine, alors pour passer au cas de Lisbonne, alors Mathieu a plutôt travaillé cette fois-ci dans une approche un peu carrément qualitative, à travers l'analyse des trajectoires résidentielles, et là aussi en tâchant de mettre en évidence cette pluralité des profils, mais au-delà des profils, cette pluralité des trajectoires résidentielles observables dans le quartier d'Alcantara à Lisbonne. Donc là, vous avez un petit tableau synthétique, donc je ne rentre pas non plus dans le détail, parce que ce sera un peu long, mais comme vous pouvez le constater, on a, dans le cas d'Alcantara, à distinguer ce que Mathieu appelle les nouveaux venus, les personnes qui sont en situation de retour, et enfin les résidents déjà là, donc installés parfois plus ou moins longtemps. Et même à l'intérieur de ces différentes catégories, par exemple parmi les nouveaux venus, distinguer ceux qui s'installent plutôt dans du neuf de standing, bénéficiant d'ailleurs des politiques publiques de renouvellement urbain, ceux qui s'installent dans l'ancien réhabilité, donc qui correspondraient plutôt au modèle classique, s'il faut se référer au modèle des gentrifieurs, et enfin ceux qui s'installent dans l'ancien dégradé et qui correspondent plutôt à des individus qui sont souvent en situation de mobilité interne à l'échelle du quartier. Et donc ce que dit Mathieu, c'est que au fond, ce qu'on observe dans le cas d'Alcantara, c'est pas du tout des successions classiques en pionniers envahisseurs, mais c'est parfois la concomitance entre différents profils qui sont considérés comme devant être successifs dans les modèles classiques, dans les modèles théoriques. Pour le dire autrement, dans le quartier d'Alcantara, à la même époque, il observe des trajectoires résidentielles qui correspondent à la fois aux pionniers et à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé, par exemple, les envahisseurs, et qui vont plutôt vers le neuf de standing. Donc, au final, on a bien une pluralité de processus, une pluralité de trajectoires qui viennent constituer autant de freins ou au contraire d'accélérateurs de la gentrification. Alors, pour conclure cette communication et pour rebondir sur la communication précédente de Thomas Maloutas, au fond, pourquoi continuer à garder le terme de gentrification ? Parce que malgré tout, il nous semblait qu'un certain nombre de dénominateurs communs permettaient d'identifier une configuration sociale particulière qu'on ne retrouve pas derrière d'autres termes comme ségrégation, paupérisation ou autres. Mais il y a peut-être aussi un enjeu plus politique à garder le terme de gentrification et surtout à explorer la gentrification au pluriel. C'est-à-dire qu'à parler simplement de quartiers gentrifiés ou à tout mettre derrière le terme de gentrification, eh bien, en fait, on en amène à formuler des politiques publiques qui sont inadaptées à la réalité de ces quartiers et surtout à la complexité sociale et urbaine de ces différents quartiers. Donc, selon nous, continuer à parler de gentrification et en particulier continuer à parler de gentrification au pluriel en observant ces différentes variétés, ces différentes variations, c'est un pas vers des politiques publiques qui sont plus adaptées à la réalité de ces espaces urbains. Voilà. Je m'arrête là-dessus. Merci. Merci.
J'ai préparé une discussion que je ne vais pas suivre parce que elle serait trop. Et donc, je vais sélectionner quelques points. Et, merci. Je ne sais pas. Mon commentaire serait de toute façon un peu tronqué. Je ne sais pas si c'est un bon mot. Et parce que pour le moment, j'ai eu le temps et la chance de lire la grande introduction de votre livre et les conclusions et jeter un coup d'œil au reste. Mais ceci m'a donné envie de lire le reste très prochainement. Et je trouve que la cohérence du volume est un exploit. Et d'habitude, quand on démarre des différentes thèses, etc., et au mieux, on peut arriver à un volume dirigé qui fait pas ou fait pas trop de sens. Et le vôtre vraiment a un sens. Et on n'imaginerait pas que ça vient de choses, des travaux et un peu indépendantes. Et en ce qui concerne, ou avant de passer à ça, et, ayant lu les premières pages de ces livres, et ça m'a donné des sentiments nostalgiques et ça m'a rappelé mes études ici dans les années 70. Et leur impact sur l'habitude de théoriser et contextualiser la moindre entreprise de recherche. Et j'embrasse donc la revendication des auteurs pour une approche théorique et empirique en même temps, et qui signifie aussi une approche critique et qui se distancie de la pratique courante qui découle d'un empirisme sous-jacent et qui limite les prétentions théoriques souvent à payer ses respects aux positions théoriques dominantes. Donc, bravo pour ça. Et un autre avantage d'un livre qui naît dans le contexte particulier est que vous avez la chance d'être dans un contexte qui a des outils qu'on comprend comme comment dire comme si c'était naturel. Et vous parlez par exemple des différences entre le privé et les gens du privé parmi les gentrifieurs et les gens du public. On discutait à midi de ça. Et ceci est possible. Vous faites référence aux travaux d'Auberti, Pretzel et autres qui font cette. Mais vous construisez sur ça. Et ceci est possible parce que dans le contexte français, vous avez des CSP avec une tradition théorique, etc., qui vous donne la possibilité d'observer. Et tandis que dans le contexte, c'est pas seulement le contexte anglo-saxon, mais c'est un peu partout, et où on est limité par les approches weberiennes de Goldthorpe, qui sont limitées au employment relationship, où le être dans le public ou le privé n'a pas tellement de sens, et vous n'auriez pas pu, parce que les recensements et tout ça ne sont pas dotés de données pareilles. Donc, c'est ce qu'on disait pour le contexte. Le contexte est aussi, vous donne ou vous donne pas des lunettes qui vous permettent de voir ou de ne pas voir des choses différentes. Et en ce qui concerne l'essentiel, je suis tout à fait sur la même page avec les auteurs du livre, et pas parce que vous me citez de manière positive. Et d'accord que la gentrification n'est pas un processus simple et homogène, tout à fait. Et ce n'est pas un processus inéluctable. Peut-être ça, c'est le plus important. Et que la gentrification a un rapport social d'appropriation de l'espace qui met aux prises des acteurs et des groupes inégalement dotés. Tout à fait d'accord. Et j'aime aussi votre décision d'appeler ça gentrification, et on a discuté tout à l'heure, que c'est une forme de critique. Mais vous n'êtes pas les seuls à le faire. Mais j'embrasse votre façon de le faire, qui est un peu ouverte aux différentes gentrifications. Parce que le volume dont on parlait tout à l'heure, le Global Gentrifications, a une approche un peu différente, c'est-à-dire la façon dont Global Gentrification approche cette question est exactement à l'encontre de ce que je considère propice. Et dans leur directive aux auteurs, et quelqu'un de vous était parmi les auteurs de... Non. Donc vous n'avez pas eu l'expérience. Et dans leur directive aux auteurs, les directeurs de ce volume paraissent assumer que la gentrification est sans doute un processus qui marche dans les villes du Global North ou du monde de l'Ouest. Et leur question était si ça marche aussi dans d'autres contextes, de facto présumés hors du Nord global, ou si un autre concept endogène, c'est-à-dire subalterne, donc apparemment destiné a priori d'avoir une importance locale et circonscrite, et serait plus approprié pour décrire les processus locaux de restructuration urbaine. Donc, je suis pour des gentrifications ouvertes et pas pour des gentrifications globales qui sont ordonnées, hiérarchisées et excluantes si on ne pas dans l'esprit d'un certain type. Où dois-je aller maintenant? Si j'oublie quelque chose, vous n'allez pas vous apercevoir, donc c'est pas si important. Et très important, j'ai apprécié votre emphasis, votre insistance sur l'importance du cadre bâti, du physique. Et là, on a vu très clairement cette importance. Et ce n'est pas quelque chose où on trouve beaucoup de matériel, à part les structures industrielles délaissées qui astucieusement se transforment en loft, etc. Et il n'y a pas grand-chose sur les structures physiques qui entravent la gentrification. Et je pourrais vous évoquer l'exemple du bâtiment traditionnel et dominant dans le centre d'Athènes, qui est, à mon avis, l'entrave principale au lancement de ce processus, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y a pas un contexte d'opposition politique à la gentrification. La gentrification n'est même pas sur l'agenda du jour social, politique. Les médias un peu l'introduisent. Et là, vous avez un bâtiment où vous avez les ménages aisés et vers le haut, dans des grands bâtiments ensoleillés, etc. Et plus vous allez en bas, vous avez des petits appartements sombres, brouilleux, etc., avec et ménages populaires et émigrés. Et à l'encontre des toits parisiens, et c'est pas gentrifiable, parce que en haut, vous avez déjà les classes moyennes et supérieures. Donc, gentrifier, déplacer, c'est pas... Il faut déplacer les déplaçables. Et, mais là, les lieux n'ont pas d'intérêt si vous investissez même des larges sommes d'argent. Les caractéristiques négatives ne se renversent pas parce que le soleil ne le voit pas, etc. etc. Donc, j'ai aussi apprécié beaucoup votre insistance sur ça. Voilà. Ah, et on a dit tout à l'heure, on a mentionné la question du succès de la gentrification dans le monde académique et ailleurs. Et je dirais que des paramètres qui ont facilité ce succès sont tout d'abord que les schémas de la ségrégation sont plutôt simples, et en plus le schéma dominant, simple et séquentiel, ça, on dit séquentiel, oui. et aussi téléologique. Donc c'est assez facile à suivre. Et un second point, c'est que son objet est très visible, étant donné qu'il s'agit surtout des quartiers centraux et en mouvement, à la mode, devenus des objets d'envie pour des groupes qui ont une voix, et aussi pour des intérêts économiques importants, etc. Et ainsi, la visibilité de la gentrification crée un cercle vicieux en attirant beaucoup plus d'étudiants, de chercheurs, etc., qui optent de s'occuper avec un objet dont tout le monde parle. Et je vous avais donné l'exemple des étudiants grecs qui veulent étudier ça dans un contexte où ce n'est pas à l'ordre du jour. Aussi, la définition de la gentrification est très large et permet toutes sortes de petites enquêtes avec des méthodologies très variées et pas nécessairement rigoureuses de participer à la montée de cette vague. Et cinquièmement, il est facile de distinguer entre les bons et les méchants, surtout si on se limite à l'analyse de très loin, bien qu'il y a des gens comme Sylvie Tissot et autres qui gâchent un peu ce mythe. Et enfin, la politique d'une grande partie de chercheurs distingués dans ce domaine a été pour l'expansion du concept, aussi bien dans les parties des villes hors du centre et même hors de l'urbain, ainsi qu'à des pays où les transformations socio-spatiales de l'urbain n'étaient pas approchées sous cet angle. Et je crois que c'est aussi les protagonistes de la nouvelle agenda sur la gentrification et ont voulu créer un champ de recherche. Et c'était une intention d'élargir ça pour mettre tout le monde dans une discussion. Et c'était vraiment assez bizarre de voir à Leeds la moitié de la conférence, et c'était 75 sessions, parler de la gentrification. C'est vraiment... C'est une épidémie. Élément de critique. Voilà. Petite remarque critique. Je suis toujours méfiant des métaphores biologiques, comme l'ADN de la gentrification. Et même si elles sont inoffensives, comme dans votre cas, et même si l'approche dans votre livre n'a rien à voir avec la réapparition dynamique des positions réactionnaires qui avancent des interprétations biologiques pour des phénomènes sociaux. Et c'est surtout parce qu'il y a cette réapparition de type d'approche comme ça que je... pour finir, je dirais encore une fois que j'ai apprécié beaucoup votre livre et que je suis sûr que ça va attirer l'attention du milieu qui travaille sur la ségrégation et sur la gentrification. Et je pense que ça vaut la peine, si vous ne l'avez pas déjà fait, de considérer une version en anglais. Parce que ça pèse plus.
Merci beaucoup. Tu veux dire un mot de la traduction
ouais.
anglaise, Anaïs ?
Ouais, je peux répondre. Pour la critique, on est d'accord. Tout à l'heure, en préparant, plus on communique sur le livre ouais. et plus on abandonne ce terme ADN qu'on assume oui. trop. Et je pense qu'il faut qu'on l'abandonne définitivement. Même si oui. maintenant, c'est imprimé dans le bouquin. Donc,
Là, c'est... dans la deuxième édition, vous pouvez...
En fait, c'était un peu un... On a fait beaucoup de réunions de travail pour parvenir à cette cohérence du livre et donc on est content si ça a marché, mais c'était plutôt un vocabulaire de travail et ça aurait pas dû rester dans le corps. Pour ce qui est de la traduction, bah, on a considéré effectivement que peut-être ça pouvait être utile et que comme le débat se situait beaucoup effectivement en langue anglaise, pourquoi pas essayer d'y mettre un pied. Donc voilà, donc on est dans le processus, mais justement c'est intéressant puisqu'il y a deux jours, il y a trois jours, on a reçu notre deuxième réponse d'un éditeur britannique, deuxième réponse négative.
C'est souvent la troisième qui est la première.
Voilà, on a retenu tout à l'heure la formule magique. Donc, voilà. Mais donc non, mais les arguments sont intéressants. Alors bon, il y a des arguments qu'on peut entendre, que le livre serait trop cher à produire ou je sais pas quoi. Bon, je sais pas tellement pourquoi, mais.
Vous voulez en couleur.
On ne réclame pas de droits particulièrement élevés. Ni...
Vous voulez en couleur.
Non, pas spécialement. Donc, bon, mais sinon, les arguments intéressants, c'est que, en tout cas, là, le dernier mail de refus qu'on a reçu, c'est que comme il y a principalement des cas français et quelques cas d'autres pays européens, et que le bouquin est déjà publié en français, du coup, le lectorat est déjà couvert. Bon, ben on va tenter notre chance ailleurs.
Non, mais c'est le premier, c'était plus bref, mais c'était ça aussi, le premier refus. C'était pas très intéressant vu d'Angleterre.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Juste, ouais, j'aurais deux réactions en fait à vos remarques. Bon, d'accord. D'abord, merci pour ouais. cette lecture de l'ouvrage et puis ces remarques qui au fond, on est assez d'accord, hein, globalement. C'est bien. Alors, pour revenir d'abord sur le premier point, sur la cohérence d'ensemble, alors effectivement, comme l'a rappelé Anaïs, c'est un travail de 4 ans, donc il y a eu beaucoup de réunions, mais il me semble que cette cohérence d'ensemble, elle tient aussi au fait que, malgré nos disciplines différentes, on s'est tous inscrits quand même globalement dans une tradition scientifique et dans des traditions disciplinaires qui sont communes et des références disciplinaires communes. Et je pense que c'est ça aussi qui fait sans doute la cohérence d'ensemble, plutôt qu'un patchwork de gens qui seraient éparpillés venant de milieux académiques différents. Il y a beaucoup de références dans nos bibliographies qui sont les mêmes, des approches qui sont les mêmes. Et, je pense que c'est un peu le plaidoyer aussi pour le maintien d'une science sociale forte en France. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors sur les outils... Là, pour le coup, on a la chance, et en tout cas jusqu'à là maintenant, d'avoir des outils qui soient statistiques ou qualitatifs à notre disposition. Mais peut-être pour prendre un peu de distance à ce que vous dites, je pense aussi que c'est, il faut aussi se donner moyen de créer ses propres outils et ses propres données. Enfin, en l'occurrence, on est plusieurs dans nos thèses, et Marie l'a montré à travers l'exemple de l'analyse du bâti, avoir produit des données originales, des données inédites, avec des méthodes aussi inédites qu'on n'a pas statistiquement et qu'on n'a pas dans... Voilà, donc c'est aussi prendre la mesure de ce dont on a besoin pour créer ses propres outils. Je dis ça parce qu'il me semble que, quand même, l'une des insatisfactions très fortes que l'on a eues par rapport à des travaux et des ouvrages comme Global Gentrification, c'est l'absence de données empiriques. Et peut-être une propension un peu facile à se masquer derrière des constructions théoriques parce qu'il faut faire de la géographie radicale, parce qu'il faut dénoncer, qui en quelque sorte dédouanerait ces travaux-là de mettre les mains dans le cambouis, quoi, pour être clair. Voilà, bon, c'est tout simple.
Alors, on peut ouvrir les questions. On a à peu près, on avait dit 17 heures, on peut déborder un peu. On peut dire 20 minutes à peu près de temps d'échange, si ça vous va. Je ne sais pas qui souhaite ouvrir le bal. Moi, en fait, je voulais juste faire une remarque avant, mais ce n'est pas une question, donc je me permets. Moi, je trouve qu'il n'y a pas... Enfin, c'est une question qu'on se pose avec Anaïs, puis d'autres. Il n'y a pas vraiment d'études urbaines en France, en fait, de champ des études urbaines. Et je trouve que ce n'est pas si fréquent et si réussi que ça de travailler avec des disciplines différentes, géographie, sociologie, sciences politiques, et que voilà, c'est pas, enfin, ce que tu disais sur l'unité disciplinaire, il y a des références communes, mais c'est pas toujours si évident, donc c'est aussi une réussite de ce point de vue, quoi. Voilà.
Tout d'abord, c'est vrai que merci pour cet ouvrage qui rouvre au moins dans le contexte français des discussions que pour certaines vous retracez qui ont lieu plus dans des revues anglophones depuis très longtemps, depuis les années 90, mais au moins ça pose la question dans le contexte français dans lequel la notion est plus jeune, j'ai envie de dire. Et j'avais donc une question qui était celle de savoir si vous aviez réfléchi à comment positionner votre proposition, en fait, par rapport à d'autres propositions, notamment celle de Mathieu Van Krekingen et Descroly de 2003, et puis un peu plus tard Kate Shaw en 2008, de reconsidérer la gentrification comme prisme d'interprétation. Alors, Van Krekingen et Descroly plaident pour une nouvelle géographie des processus de renouvellement urbain avec une typologie empirique basé sur un regard croisé entre Bruxelles et Montréal, de mémoire, dont la gentrification est identifiée comme un processus particulier parmi d'autres processus plus traditionnels de transformation des quartiers qui n'impliquent pas forcément une recomposition sociale élitiste. Et un peu plus tard, Kate Shaw a réagi à cette espèce d'invitation ou ce programme d'élaboration d'une nouvelle géographie des processus de renouvellement urbain en plaidant, elle, pour le maintien de l'unité de la notion avec, bien sûr, une ouverture vers ses variations et a suggéré plutôt de travailler à une nouvelle géographie du processus de gentrification et non pas du renouvellement urbain. Donc, vous, comment vous vous situez? C'est vrai qu'il me semble que vous ne parlez pas notamment de cette proposition de Kate Shaw dans votre ouvrage, je me trompe peut-être. Et de cette idée de, alors elle envisage la gentrification comme un continuum de restructurations urbaines, économiques et sociales, avec la possibilité d'aller-retour. On n'est pas tout à fait dans un modèle par étape, mais bon, voilà, elle parle de continuum. Donc, est-ce que vous en avez parlé un peu et éventuellement comment vous pourriez vous positionner par rapport à ces propositions?
Ouais, enfin peut-être. Alors parce que l'article est ancien, donc depuis sa position a évolué aussi.
Ouais, enfin juste pour dire, voilà. Non, mais effectivement, on discute assez peu ce travail de 2008. On est plutôt dans la première position, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'idée qu'il y a, enfin comme l'a dit Anaïs, on considère pas les variations de la gentrification comme des déclinaisons d'un modèle unique et d'un modèle théorique abstrait, mais bien la gentrification comme un processus parmi d'autres. Et en ce sens, on est plutôt dans la position de Crowley et Van Krekingen. Enfin, en l'occurrence, eux, ce qu'ils montrent bien dans leur article, c'est que justement, effectivement, quand on regarde de près, il y a la gentrification, mais il y a aussi d'autres choses, y compris des montées en gamme. Je sais plus comment ils appellent ça, incumbent grading, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, montée en gamme in situ, c'est-à-dire des gens qui sont sur place, et avec des logements qui montent en gamme, non pas parce qu'il y a de la gentrification, mais parce que les personnes elles-mêmes, en fait, sont dans des trajectoires sociales ascendantes. Et voilà. Donc là, cette position nous convient bien. Ceci étant, les chercheurs eux-mêmes ont des évolutions. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de la position de Van Krikken. On a pris un peu plus de distance avec la position actuelle de Van Krikken qu'avec la position de son travail commun et de comparaison avec Bruxelles et Montréal. Pour dire les choses clairement.
En tout cas, par contre, on est vraiment tout à fait d'accord sur cette coexistence d'autres processus, y compris de processus de paupérisation rapide dans les mêmes secteurs. Là, on est tout à fait d'accord avec lui.
En fait, on a une petite divergence sur politique de gentrification, pour être clair. Ce qu'il appelle, lui, politique pro-gentrification, politique de gentrification. Là, on a une... Des discussions qui sont un peu plus divergentes.
Ouais, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Anaïs, alors un peu au détour d'une phrase, mais moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant quand tu as dit qu'en gros vous proposiez davantage une méthodologie plus qu'une définition. Et moi c'est ce que je trouve vraiment très fort dans votre livre, alors dans un contexte où de fait on est dominé dans le champ des études urbaines internationales et on s'est un peu vu imposer le terme de fait, enfin, faut le reconnaître. Moi, je trouve que je trouve vraiment malin, et peut-être que ça vaudrait le coup de l'affirmer plus dans une version anglaise, c'est que vous reprenez le terme et pour y réinjecter des méthodologies alors qui vous sont chères, qui nous sont chères aussi. Je pense qu'on partage tous ici, hein, avec une vision très fine des groupes sociaux, des classes, des fractions de classes, cette attention aux formes urbaines, à la production symbolique de l'espace, à toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important que vous faites quasiment en recaptant ou en vous réappropriant une notion qui n'a pas été vraiment forgée pour faire ce type forcément de sociologie, qui ne donne pas lieu forcément à ce type de sociologie ou de géographie. Et en quelque sorte, il y a une sorte de retournement ou de captation pour mettre en évidence le caractère très fructueux et très, je trouve, méthodologiquement très intéressant de tous ces travaux-là. Et je me demande pour votre projet, on en a parlé un petit peu à la cantine à midi, mais peut-être pour répondre à ces objections de c'est trop français, etc., de proposer une publication de votre introduction, alors qui est déjà assez longue, mais que vous pourriez, je trouve, presque durcir un petit peu plus dans ce que vous proposez, vraiment dans le sens de cette introduction. Alors de laisser tomber, c'est pas pour dire du tout que les autres chapitres ils sont moins bien. Moi j'ai beaucoup aimé tout le livre, mais bon, c'est publié en français, et de proposer ce texte-là, un texte, je trouve qui se tient en lui-même.
Voilà. Ouais, merci pour la suggestion. On va y réfléchir. Je pense que c'était pas si conscient que ça en fait, hein, ce que tu soulignes, même si effectivement, de plus en plus. Moi, je suis convaincue à l'issue de ce travail que si le terme ou la notion de gentrification vaut le coup d'être conservé, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est, on le disait tout à l'heure à la pause, une espèce de boîte à outils assez conséquente maintenant, parce qu'il y a eu énormément de travaux menés sous ce terme-là. Après, bon, est-ce que ça m'intéresse assez peu de faire une géographie de la gentrification pour répondre aussi à la question précédente. Ça m'intéresse peu de classer les espaces en disant celui-ci, c'est de la gentrification, celui-ci, ça ne l'est pas. Parce que voilà, il y a plein de processus à l'œuvre en même temps. En revanche, on a maintenant une espèce de boîte à outils, de valise qui rassemble énormément de travaux. Et c'est génial qu'il y ait les théories de l'offre et les théories de la demande, parce que moi, ça m'a permis de travailler mes terrains avec des outils théoriques variés, et donc justement d'essayer d'en dire le maximum, en fait, de les éclairer. Mais je trouve que c'est en tant que boîte à outils plus que catégorisation que ça m'intéresse aujourd'hui. Mais effectivement, j'avais pas conscience que peut-être qu'on réinjecte des méthodes de sciences sociales un peu franco.
Ou c'est ma lecture.
Ouais, c'est ça, je sais pas.
Et c'est pas forcément seulement français, hein, c'est pas pour mettre un label national du tout. C'est...
Oui, mais c'est vrai.
Et vous ne devez pas le faire dans un esprit nationaliste.
Non, non, certainement pas.
À partir d'une position qui est de fait une position particulière dans dans cet espace-là.
La French Empire.
La French Empire, oui.
Moi, je n'ai pas encore lu le livre, je vais bientôt m'y jeter dessus, mais dans un esprit plus de, disons, d'analyse microsociologique et un rapport avec la question des logiques des pratiques de gentrification, donc du côté des gentrifieurs, je me demandais si, dans vos analyses, vous avez fait attention à mettre en relation la trajectoire résidentielle avec la trajectoire sociale. Ce que je veux dire, c'est que dans un esprit où précisément certains effets de patrimonialisation ou certains effets de des obstacles de positionnement d'un logement dans le bâtiment sur cour à étage élevé, étage bas, etc. Je pense à l'intervention sur Athènes. Il peut être intéressant, je crois, d'étudier les logiques de choix aussi du logement. Par exemple, on peut, dans un esprit de trajectoire sociale ascendante et avec une trajectoire résidentielle où on va d'assez bas vers... on peut privilégier, par exemple, l'adresse. Ce qui fait qu'on peut aller habiter un appartement de qualité très mauvaise, entre guillemets, pourvu que l'adresse soit bonne. Et du coup, dans la mesure où précisément on est en ascension sociale, en quelque sorte... bonifier, disons, un bâtiment. Enfin, je schématise beaucoup. Et à quoi je pensais aussi en réfléchissant, en écoutant vos exposés aussi, c'est le rôle des... vous avez parlé du rôle du marché du logement, évidemment, du marché immobilier. Et je me demandais si le rôle des agents immobiliers eux-mêmes, vous avez dû probablement l'étudier. Voilà, je le sais. Donc, mais là je pense que c'est la capacité de certains agents immobiliers à vous vendre un taudis sous prétexte que c'est dans le triangle d'or du 14e arrondissement, etc. Le problème, c'est la rencontre entre ces pratiques d'agents immobiliers et puis justement la trajectoire du preneur éventuel de ce logement, donc entre l'offre et la demande. Voilà, c'était juste une observation.
Oui, alors dans le quartier de Châteaurouge, donc, que j'ai étudié pendant ma thèse, il y avait plusieurs agences à ce moment-là qui étaient très actives, dont une qui était implantée dans le cœur du quartier avec 4-5 agents immobiliers qui avaient une connaissance du parc très fine, mais au point de savoir dans certains immeubles, parce qu'il y avait aussi... beaucoup de logements qui étaient remis sur le marché à ce moment-là. C'est vrai qu'il y avait eu, pendant ces années 90, un peu à tonne sur le plan immobilier, où le quartier était quand même aussi très, très, très dégradé. Il y avait beaucoup de vacances. Et puis ces logements, au moment où les prix ont commencé à beaucoup monter dans Paris et dans le quartier, ceux qui pouvaient être remis sur le marché l'ont été. Donc tout d'un coup, il y a eu aussi plein de logements à vendre, et donc des agents qui se sont mis à connaître assez finement l'intérieur des immeubles, au point de savoir que telle personne âgée allait bientôt partir en maison de retraite, ou que telle personne était décédée. Enfin, il y a une connaissance vraiment très, très, presque... enfin, en tout cas, très, très importante, effectivement, et avec... une connaissance aussi de la demande, avec je sais que tel logement va être à vendre, ou ça c'est évident. Et puis concernant les trajectoires résidentielles, alors le schéma le montrait pas du tout, parce qu'en fait quelque chose que j'ai aussi beaucoup étudié qui m'a interpellée dans le cas de Château-Rouge, mais c'est que aussi beaucoup de nouveaux habitants ne restaient pas. Et c'est en fait encore le cas aujourd'hui. Seulement sur mon schéma, ça se voit pas, ça reste en bleu, parce que c'est le même profil en fait sociologique, même si l'appartement est revendu un an après ou deux ans après. Et les raisons qui font que les gens partaient et continuent de partir, parce que c'est des raisons qui sont liées notamment aux écoles du quartier, qui sont liées aussi à la taille des logements. Ça reste quand même des logements assez petits, hein. Donc quand les enfants naissent, les familles s'agrandissent, il y a beaucoup de départs. Il y a quand même beaucoup de problèmes de départs qui sont liés à des problématiques sociales du quartier, hein, la drogue, le maintien des commerces, le niveau des écoles. Et là, c'est vrai que la trajectoire résidentielle antérieure, elle est assez intéressante aussi. Et il y a certaines personnes pour qui, clairement, ça n'était qu'un investissement pendant quelques années, avant de faire une plus-value et puis de revenir grâce à cette plus-value dans un quartier qui correspond plus à un profil social. Et du coup, je pense que c'est aussi à croiser donc avec à la fois le cycle de vie. Enfin, il y avait des choses aussi importantes au niveau du cycle de vie et puis effectivement de ces trajectoires. Alors qu'on retrouve aussi, ça c'est quelque chose qui a été étudié par Thomas Pfirsch à Naples. Enfin, moi j'avais entendu en parler, ça m'avait beaucoup intéressé. C'est-à-dire qu'il étudiait donc des familles napolitaines qui vivent dans des quartiers très bourgeois de Naples. Et dans la trajectoire résidentielle, à un moment donné, il peut y avoir quelques années passées dans un quartier en gentrification de telle ou telle grande ville européenne. Mais une fois qu'on se marie, qu'on a des enfants, on retourne. Et quand je l'avais entendu en parler, ça m'avait un peu fait tilt aussi. Effectivement, ces trajectoires, elles sont très, très intéressantes à observer, mais là aussi à une échelle très, très fine. Et moi, ça m'a plus aidé à comprendre des départs du quartier. Mais le marché de l'immobilier est tel que le logement est revendu, mais il est revendu à un prix encore plus cher. À des personnes qui ont le même profil sociologique, voire économique, voire encore un peu plus fortunées, ou qui s'endettent, qui acceptent de s'endetter beaucoup plus que les précédents. Donc il n'y a pas de retour en arrière forcément, mais il n'y a pas de maintien de stabilité.
Oui, sur l'articulation trajectoire sociale, trajectoire résidentielle, moi, c'est un truc que j'avais développé beaucoup dans ma thèse. Et du coup, j'ai refusé, comme j'avais déjà publié, d'écrire un chapitre dans la partie habitant du livre, un peu par principe, pour pas me répéter encore. Et du coup, j'ai été hyper intéressée par l'approche de Marie et de Lydie, qui proposait de considérer pas seulement la trajectoire résidentielle, mais aussi les systèmes de lieux, pour reprendre l'expression de ta directrice de thèse, Françoise Dureau, c'est-à-dire de voir comment le choix résidentiel s'articule aussi avec les autres lieux régulièrement fréquentés, le lieu de la famille proche, le lieu de travail, les lieux des amitiés, etc. Les autres ancrages peuvent permettre aussi de faire un choix résidentiel parce que par ailleurs on a des attaches avec des quartiers plus valorisés ou valorisants ou correspondant à d'autres dimensions de la trajectoire sociale et je trouve que ça rajoute une dimension que moi j'avais pas tellement prise en compte dans mon travail. Et pour ce qui est des agents immobiliers, oui, c'est pour être honnête, non, il n'y a pas de chapitre dans lequel on analyse le rôle des agents immobiliers et on l'a pas fait dans nos thèses. J'avoue, je ne connais pas de travaux qui soient vraiment focalisés sur leur rôle dans les processus de gentrification. Il y a la thèse de Loïc Bonneval à Lyon 2 sur leur rôle dans la fabrication des prix immobiliers et je trouve ça passionnant parce que ça croise une sociologie urbaine, de professionnelle et économique. Et donc, et derrière ça, la question qui, moi, m'a taraudée dans ma thèse, c'est celle de la valeur. Enfin, comment se fabrique la valeur des lieux? Donc, j'ai l'impression qu'il reste des choses à faire.
Oui, du coup, pour le cas de Château-Rouge, vous parlez de départ d'un certain nombre de ménages de classe moyenne qui sont remplacés par d'autres ménages de classe moyenne. Et dans l'ouvrage, vous parliez d'inversion du processus de gentrification, mais vous ne donniez pas d'exemple. Du coup, ce que je me demandais, est-ce que vous avez entendu parler, vous, sur vos terrains ou ailleurs, de cas de vraiment de gentrification qui marche pas avec un vrai départ de classe moyenne et du coup à quelle situation ça donne lieu ensuite en fait, si vous en avez entendu parler.
Alors juste là c'est vrai que c'était pas développé dans le livre, mais effectivement oui, moi j'ai pu vraiment voir des cas de logements voilà, qui avaient été complètement transformés, que le propriétaire souhaitait louer assez cher à ce moment-là à des étudiants. Et puis finalement, il n'a pas trouvé. Et il s'est tourné à nouveau vers ses anciens locataires, qui étaient des travailleurs migrants qui se partageaient, qui étaient en colocation. Voilà, il n'y avait pas... Voilà. Ça, c'est vrai que c'est des cas qui sont plus anecdotiques par rapport au reste, mais qui étaient quand même présents, quoi. Alors que si on change l'échelle, c'est ça qui était intéressant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on reste à une échelle qui est tout aussi légitime, hein, à l'échelle des iris, on voit une transformation qui avance de manière inéluctable, mais quand on zoome vraiment sur à l'échelle des immeubles, c'est pas si évident que ça. Voilà.
Mais est-ce que vous avez observé le cas de quartier vraiment
Alors, de quartier, moi non, mais
Là, il y a des portions. Ouais,
ce qui est compliqué avec, à Ciutat Vella, moi j'avais observé des portions qui pour le coup, où la gentrification ne prend pas. Effectivement, la gentrification ne prend pas. Et pour deux raisons principales. La première, c'est le maintien d'une forte communauté étrangère qui joue sur l'image négatif du quartier aux yeux des agents immobiliers, aux yeux des futurs gentrifieurs, on est d'accord. Mais donc du coup, qu'il y a un effet sur les représentations que ces clients potentiels peuvent avoir du quartier. Et puis le deuxième processus, c'est la mise en tourisme. Et alors, j'avoue que j'ai pas tellement creusé cette question sur les années récentes, mais moi, je soupçonne très fortement qu'aujourd'hui, le principal frein à la gentrification à Barcelone, c'est le Airbnb.
Et puis, dans notre collectif, Max, à Roubaix, ouais. Lui, il voit une inversion quand même. C'est-à-dire que ce qu'il raconte, c'est la transformation de locaux industriels en loft.
Et ça marche pas.
L'émergence d'un marché de loft qui, avec un emballement, et donc au départ, seulement quelques acteurs, et puis finalement, un certain nombre, plusieurs centaines de lofts qui sont aménagés et qui sont vendus à des propriétaires. Enfin, des acquéreurs, et avec la crise de 2008-2009, pour le coup, une perte de la valeur de ces biens, des difficultés à les revendre. Donc là, plutôt, une sorte d'échec,
Enfin, moi, j'ai le sentiment du peu d'exemples de ce type que ce qui se passe, en fait, c'est moins une reconversion dans ces cas-là vers le populaire, sauf peut-être quelques exceptions à Châteauroux, que des stratégies de mise en attente. En attendant justement que la valeur immobilière augmente à nouveau. Et donc des logements qui sortent en fait du marché immobilier en attendant qu'il se passe quelque chose, quoi, et que ça frémisse à nouveau.